Amen, bonjour à toutes et à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, je propose de commencer par une lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 11. Romains, chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et nous pouvons le dire à la première personne du pluriel, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il y a quelques semaines, j'avais parlé de rester éveillé. Rester éveillé qui est l'attitude de celui ou de celle qui attend Jésus. Le chrétien qui attend Jésus, il est éveillé. C'est sa caractéristique principale. Et nous avions vu quatre attitudes spirituelles qui montrent que nous sommes éveillés. Être éveillé, c'est annoncer l'évangile. Être éveillé, c'est renouveler notre sagesse. C'est travailler nos talents et c'est prendre soin de notre onction. Et aujourd'hui, je voudrais terminer avec deux autres raisons qui font que rester éveillé est indispensable en attendant le retour de Jésus. Être éveillé, c'est demeurer dans la communion fraternelle. Et être éveillé, c'est demeurer fidèle. Donc pour illustrer le fait qu'être éveillé, c'est demeurer dans la communion fraternelle, on va s'appuyer sur le livre de Néhémie. Pour ceux qui connaissent, donc, le livre de Néhémie, c'est l'histoire, Néhémie, d'un homme qui vivait à Babylone. Il ne vivait pas en Israël, mais il vivait à Babylone. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, après les rois, le peuple d'Israël qui s'était détourné de Dieu avait été déporté à Babylone. Les prophètes l'avaient annoncé et cela s'est réalisé. Le peuple d'Israël a été déporté vers Babylone et Jérusalem a été détruite. Et Néhémie est donc un descendant du peuple d'Israël et il était officier à la cour du roi de Babylone. Ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un sacrificateur, ce n'était pas un serviteur de Dieu. C'était un homme qui travaillait et il travaillait au service d'un roi. Il était officier pour le roi de Babylone. Et Néhémie a reçu un appel de Dieu pour conduire son peuple, pour revenir à Jérusalem et rebâtir Jérusalem. C'est ce qu'il va faire. Il va obtenir l'autorisation du roi de Babylone de revenir à Jérusalem avec une partie du peuple pour travailler à la reconstruction. Et ils vont commencer à reconstruire Jérusalem par les murailles. Qu'est-ce qu'ils vont trouver quand ils vont arriver à Jérusalem ? Beaucoup d'éléments contraires, beaucoup de difficultés. D'abord, ils vont trouver des décombres. Ils vont retrouver des éboulements, une muraille qui était fissurée, qui était détruite. Tout ça, vous pouvez le lire dans le livre de Néhémie, dans les chapitres 1 à 3. Nous, on va plutôt se focaliser sur le chapitre 4, mais dans les versets 1 à 3, on nous raconte tout ça. Comment, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une ville dévastée. Et puis, ils ont trouvé de l'opposition parce qu'ils avaient des ennemis. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas que la ville soit reconstruite, que la muraille soit reconstruite. Alors ils vont trouver en face d'eux des ennemis, des menaces de mort, des attaques, des personnes qui voulaient leur causer du dommage. Tout ce que je dis là, c'est issu du texte, hein, vous le retrouverez dans le texte. Des personnes qui voulaient faire cesser l'ouvrage. Et eux, comment étaient-ils face à tout ça ? Ils étaient dans la crainte, ils étaient dans le découragement, et il est dit que les forces leur manquaient. Alors que va-t-il se passer ? Que vont-ils faire ? Comment vont-ils réagir ? En fait, ils vont se rassembler derrière le leader que Dieu leur avait donné. Dieu leur avait donné un leader. Dieu leur avait donné Néhémie. C'est lui qui conduisait le peuple dans cette reconstruction. Et la parole dit qu'ils se sont regroupés en famille. Ils se sont regroupés en famille. Et qu'ont-ils fait ? Ils ont prié. Ils se sont souvenus du Seigneur grand et redoutable. Ils étaient armés. Ils avaient des épées, ils avaient des lances. Ils combattaient pour leurs frères, pour leurs fils et pour leurs filles, pour leurs femmes et pour leur maison. À aucun moment, ils n'ont abandonné face aux difficultés. À aucun moment, ils n'ont jeté l'éponge. Au contraire, ils ont puisé dans leur force collective, ils ont puisé tout ce qu'il fallait pour accomplir la reconstruction de la muraille. Ils ont puisé leur force dans leur communion. C'est là qu'ils ont puisé leur force pour leur combat charnel, mais aussi pour leur combat spirituel. J'ai aimé ce chant tout à l'heure que nous avons chanté. Nous sommes l'armée du roi. nous sommes l'armée du roi et nous avons des armes. Eux aussi, ils étaient armés. Eux aussi, ils étaient l'armée du roi. Donc on va lire Néhémie au chapitre 4, à partir du verset 16 à 23. Néhémie 4, 16 à 23. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient. C'est Néhémie qui parle. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour vous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit. Faisons la garde pendant la nuit. Et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen. Ce texte illustre bien, je trouve, les valeurs de l'Église de Jésus. Même si on est 500 ans avant la venue de Jésus et que ce n'est pas l'Église de Jésus, mais le peuple et Néhémie représentent, annoncent, sont un avertissement. Ils représentent ce que sera plus tard l'Église de Jésus. Donc ils sont venus 500 ans avant Jésus à Jérusalem pour reconstruire cette muraille. Et la reconstruction de cette muraille fait partie des événements qui annoncent le retour de Jésus, et la construction de son église. Est-ce que vous savez qui a bâti l'église? Les enfants. On va voir si vous travaillez bien au GIB. Qui a bâti l'église? C'est Jésus. L'église a été bâtie par Jésus lui-même. Jésus a bâti son église. Il a, pendant son ministère, dit beaucoup de choses à propos de l'église. Il a dit plein de choses. Il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit, allez et faites partout des disciples. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Vous, les enfants, vous faites partie de l'église de Jésus, à part entière. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il a dit, ceci est mon corps, rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il a dit aussi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Voilà la vision de Jésus pour son Église. La vision de Jésus pour son Église, c'est bâtir, construire, travailler ensemble, être ensemble, avoir des projets ensemble, partout sur la terre, auprès de toutes et de tous, sans distinction d'origine, d'âge, peu importe. La vision de Jésus, c'est de nous rassembler sur la terre pour ensuite que nous soyons rassemblés en communion avec lui dans le ciel. C'est ça la vision de Jésus. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça veut dire que Jésus lui-même a nommé son œuvre église. C'est pas moi, c'est pas quelqu'un qui a inventé le terme d'église. C'est Jésus lui-même qui a dit, voilà mon œuvre, c'est mon église. En grec, c'est le mot ecclésia. Le mot ecclésia en grec signifie l'assemblée. Et le suffixe ecclésia signifie l'appel. La vision de Jésus pour son église, c'est de nous rassembler, de nous appeler à nous rassembler pour être en communion avec lui. Et la communion fraternelle, il en est question dès les débuts de l'église, puisque dans le livre des Actes, chapitre 2 et au verset 42, il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La communion fraternelle fait partie des quatre piliers de l'église, de la vie d'église. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain pardon, la Sainte Cène et les prières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la communion fraternelle, elle existe. Au-delà des trois autres piliers, au-delà de la prière, il y a une communion fraternelle. Au-delà de la fraction du pain, il y a une communion fraternelle. Au-delà de l'enseignement, il y a une communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est un pilier de l'Église à part entière. La communion fraternelle, ce n'est pas que partager le pain et le vin ensemble. Ce n'est pas que prier ensemble. Bien sûr, tout cela est important. Mais la communion fraternelle, c'est un pilier de l'Église à part entière. En grec, c'est le mot koinonia. Koinonia, qui signifie mettre en commun, faire en commun, regrouper. Faire les choses ensemble et le faire dans une démarche volontaire qui exige une persévérance. Donc le projet de Jésus, c'est nous rassembler ici sur la terre dans une communion avec lui pour qu'ensuite nous soyons ensemble dans le ciel. C'est indispensable que nous soyons ensemble sur la terre pour être ensemble dans le ciel. Comment pourrions-nous être ensemble dans le ciel si nous sommes éparpillés sur la terre ? Comment pourrions-nous être l'armée du roi si nous sommes éparpillés ? Vous avez déjà certainement vu des films de combat, de guerre. Les armées sont regroupées. Il y a une stratégie. Chacun ne va pas où il veut, comme il veut, avec l'arme qu'il a choisie, attaquer l'ennemi un peu comme il a décidé. Non, il y a un roi ou un chef militaire. Il a une stratégie et il appelle l'ensemble des soldats à l'écouter, à l'obéir. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'armée ou qui ont fait un service militaire, à l'armée, on obéit aux ordres. Celui qui n'obéit pas aux ordres, il a vite des problèmes. Voilà pour l'image de l'armée. 1 Corinthiens 1,9 nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il y a un mot très important dans ce verset. Là encore, je m'adresse aux enfants. Pour la première question, vous n'avez pas été super fort. Pour la deuxième, quel est le mot le plus important dans le verset, selon vous ? Fidèle, ça aurait pu. Mais ce n'est pas ça. Alors moi j'ai choisi, c'est personnel, mais j'ai choisi le mot A. Vous voyez le petit mot ? A apostrophe. Dieu nous a appelés à la communion. Alors pour ceux qui sont dans les périodes d'examen, donc A c'est... ce qu'on appelle en français une préposition, qui indique ici un but, un objectif. Dieu nous a appelés à quoi ? Dieu nous a appelés à quoi ? À la communion. Il y a un but, il y a un objectif. Dans l'appel de Dieu, il y a un but, il y a un objectif. Il ne nous a pas appelés pour rien, il nous a appelés à la communion de son Fils Jésus. Quand on dit « nous », Dieu nous a appelés, « nous » c'est qui ? On a la réponse un petit peu plus haut, au verset 2, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'église, alors Paul s'adresse à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Paul, inspiré par l'Esprit de Jésus, s'adresse à tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Vous tous qui invoquez le nom de Jésus. Vous êtes appelés à la communion de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes et tous. Nous ne sommes pas appelés juste à quitter le monde. Jésus n'est pas venu juste pour que l'on quitte le monde. Jésus est venu pour nous appeler au salut. Jésus est venu pour nous appeler à la communion avec lui. Comme le peuple n'était pas appelé juste à quitter l'Égypte, le peuple était appelé à rentrer dans le pays de Canaan. Comme Néhémie et le peuple n'étaient pas appelés juste à partir de Babylone, ils étaient appelés à partir de Babylone pour reconstruire la ville de Jérusalem. Il y a des personnes qui se tiennent à l'écart de l'Église. Il y a des personnes qui se tiennent à l'écart de l'Église pour des raisons qui leur sont personnelles. Mais tant qu'ils sont à l'écart de l'Église, ils sont à l'écart de la communion fraternelle. Dieu ne nous appelle pas à nous tenir à l'écart. Dieu nous appelle à la communion. Jésus est notre berger. Jésus est le berger qui guide le troupeau. Un troupeau, c'est ensemble. Quand un berger guide un troupeau, pardon, il ne laisse pas de brebis partir, divaguer, s'éloigner. Est-ce qu'on peut être en communion ? Est-ce qu'on peut ne pas être en communion sur la terre, mais être en communion dans le ciel ? Est-ce que je peux me tenir à l'écart de l'Église sur la terre et être dans l'Église lorsque je serai dans le ciel? Est-ce que vous imaginez arriver à l'Église, arriver au ciel et dire à Jésus, non, non, moi, je vais plutôt, dis-moi où je me mets, je vais plutôt me mettre à l'écart par là. Parce que, bon, les chrétiens, le pasteur, où c'est que je peux me mettre? Il y a un coin où je peux me mettre tout seul, tranquille. Est-ce que vous imaginez ça, sérieusement? Est-ce que vous imaginez dire ça à Jésus? Non, bien sûr que non. Être chrétien, c'est être en Christ. Si tu es en Christ, tu es en communion fraternelle. Si tu n'es pas en communion fraternelle, est-ce que tu es réellement en Christ? Donc Néhémie et le peuple ont veillé tous ensemble, en famille, on l'a dit tout à l'heure, ils étaient en famille, donc les grands et les petits, ils étaient tous là. Et on l'a entendu tout à l'heure, pendant que certains travaillaient, d'autres chargeaient les fardeaux, d'autres portaient les fardeaux. Il y en a qui reconstruisaient les murs, des maçons, mais il y en a qui surveillaient, il y en a qui montaient la garde, il y en a d'autres qui devaient certainement préparer le repas et d'autres livrer le repas. Il devait y avoir une organisation pour que le travail final puisse être accompli. Et dans une église, c'est la même chose. On travaille tous ensemble. Et on travaille tous ensemble pour l'œuvre de Christ, parce que nous sommes tous en communion en Christ. Certains louent, d'autres prient, d'autres enseignent les enfants, d'autres font le ménage, d'autres montent la garde. Nous avons tous, toutes et tous, un rôle à jouer. Petits et grands, même les enfants, quand vous priez, Jésus entend vos prières. Quand vous priez pour l'Église, quand vous priez pour vos parents, quand vous priez pour Jésus, pour l'avancée du projet de Jésus dans ce monde, vous êtes en communion fraternelle avec l'Église. Vous faites partie de l'Église. Le texte dit qu'ils ont veillé depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Et il dit aussi, faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Ils étaient tous unis, du lever du matin jusqu'au coucher du soleil, et même pendant la nuit. Et ils continuaient, ils travaillaient pendant la nuit, parce que certains montaient la garde. Et comme ça, ils ont réussi en 52 jours à reconstruire les murailles de Jérusalem. C'est un miracle. Je me suis renseigné pour bien mesurer l'exploit, mais donc les murailles de Jérusalem, c'est au moins 4 km de circonférence, 4 km. La hauteur des murs, ça dépend des endroits parce que c'est y a du relief, mais en moyenne c'est 15 mètres de hauteur. À certains endroits c'est 3, mais à d'autres c'est 20. Donc en moyenne 15 mètres de hauteur et l'épaisseur des murs 2,50 m. Est-ce que vous imaginez en 52 jours reconstruire un édifice de cette taille alors que vous êtes sous la pression de l'ennemi, des intimidations, des menaces, des attaques? La parole dit que quand les nations autour ont vu cela, ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Quand nous réalisons des choses dans la communion fraternelle, il y a des personnes autour qui le voient, Dieu manifeste sa présence dans la communion fraternelle et les gens autour de nous, quand ils voient ce que nous faisons, peuvent dire, nous reconnaissons que cette œuvre est accomplie par la main de Dieu. Amen. Donc, personne n'était à l'écart. Il n'y avait personne chez Néhémie qui se tenait à l'écart, qui faisait la tête dans son coin parce qu'il ne s'entendait pas avec les frères, les sœurs. Non, il n'y avait pas ça. Ils étaient là, ils étaient humbles, ils étaient unis dans la communion fraternelle. Ils travaillaient et c'est justement pour ça que la reconstruction est allée à son terme. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais l'accomplissement de la reconstruction de cette muraille, c'est une des étapes indispensables, essentielles à la venue de Jésus. Il fallait que la muraille soit reconstruite pour qu'après la ville soit reconstruite, que le temple soit reconstruit, que la loi soit restaurée, que l'alliance soit restaurée. Il fallait qu'il soit reconnu que la lignée de David était intacte. Il fallait que toutes ces étapes-là soient réalisées pour préparer la venue de Jésus. Et c'est pour ça que je dis que la communion fraternelle, c'est la preuve que nous sommes éveillés. Ils ont tenu bon. Pendant 52 jours, ils ont travaillé jour et nuit, ils ont monté la garde, ils n'ont jamais dormi pour réaliser cet ouvrage. Et ils l'ont fait grâce à leur communion fraternelle. C'est vrai, ce n'était pas encore l'Église de Christ, mais ils l'annonçaient. Donc si tu attends le retour de Jésus, participe à la communion fraternelle. Participe à la communion fraternelle. On l'a lu, c'est ce à quoi Jésus nous appelle. Deuxièmement, être éveillé, c'est demeurer fidèle. Être éveillé, c'est demeurer fidèle. Nous lisons dans le livre de l'Exode, chapitre 24, versets 12 à 14. Exode 24, 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Et nous lisons aussi dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, versets 1 à 4. Exode 32, 1 à 4. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Être éveillé, c'est demeurer dans la fidélité. La fidélité, c'est un don de l'esprit. La fidélité fait partie des dons de l'esprit. La fidélité, c'est même le septième don de l'esprit. Jésus lui-même est l'époux fidèle de l'Église. Dans la parole, Jésus est appelé fidèle. Il est appelé fidèle et véritable. Il est appelé témoin fidèle. Et en retour, nous qui sommes membres de l'Église de Jésus, nous sommes appelés à la fidélité envers Jésus. Nous sommes appelés à la fidélité envers sa parole. Dans la parabole des talents, le maître dit aux deux serviteurs qui ont fait fructifier les talents, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Jésus aime notre fidélité. Le maître aime notre fidélité. Donc nous avons lu, la Bible a dit, « Moïse avait tardé. » Moïse avait tardé. Le peuple infidèle croyait que Moïse était parti et qu'il allait revenir le lendemain ou dans un jour ou dans deux jours. Mais il est revenu au bout de 40 jours. 40 jours. Et le peuple, pendant ce temps, dit, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. On se cherche des prétextes, on se cherche des excuses. Il est parti, on ne sait pas où il est, on ne sait pas quand il va revenir. Et il commence même à se moquer de lui. Ce Moïse, il l'appelle ce Moïse, cet homme, ce Moïse, il ne l'appelle plus Moïse, il l'appelle ce Moïse. Alors il recherche un nouveau Dieu de fonte et de métal, il recherche cela. Et comme Jésus tarde, comme Moïse tardait, le peuple s'impatientait, et comme Moïse tarde, beaucoup s'impatientent, et beaucoup demandent autre chose, beaucoup manquent de fidélité. Parce que Jésus tarde, beaucoup de chrétiens cherchent un autre évangile. Beaucoup de chrétiens cherchent une autre parole. Beaucoup de chrétiens cherchent un autre Moïse. Ils cherchent un Aaron pour remplacer Moïse. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est qu'Aaron, il a cédé à la pression du peuple. Mais pourquoi il a cédé à la pression du peuple ? Parce qu'il servait le peuple avant de servir Dieu. Aaron servait plus le peuple qu'il servait Dieu. Moïse, c'était l'inverse. Moïse servait le peuple, mais avant, il aimait Dieu plus que tout. Moïse aimait Dieu plus que le peuple. Moïse aimait Dieu, et après, il servait le peuple. Aaron servait le peuple, et après, il servait Dieu. Le peuple infidèle ne s'était pas fait un veau d'or pour rejeter Dieu, parce que, quand on lit la parole, on voit qu'ils disent, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils n'ont pas rejeté Dieu, mais ils veulent l'adorer autrement. Ils veulent l'adorer comme eux, ils veulent. Ils veulent une autre parole. Ils ne veulent plus la parole de Moïse. Ils veulent la parole d'Aaron. Ils disent même qu'ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. En fait, ils voulaient le même Dieu, mais ils voulaient changer le message. Ils voulaient le même Dieu, mais ils voulaient changer le culte. Ils voulaient le même Dieu, mais dans la façon dont eux voulaient mener leur vie. Ce veau d'or, c'était le message de quoi ? C'était le message de la richesse. C'était le message de la réussite. C'était le message du matériel. Même s'ils étaient dans le désert, il n'y avait rien autour d'eux. Mais dans leur pauvreté, ils voulaient une richesse. C'était plus important pour eux qu'adorer Dieu en vérité. Aujourd'hui encore, certains pensent que celui qui est le plus béni, c'est celui qui a le plus d'argent. Que celui qui a la plus grande onction, c'est celui qui a la plus belle voiture. Que celui qui est préféré de Dieu, c'est celui qui a la plus belle maison. Mais c'est faux. Tout ça, c'est faux. Si on vous dit ça, si des prédicateurs disent ça, ne les écoutez pas, c'est faux. C'est archi faux. Il n'y a qu'un seul évangile. Aujourd'hui encore, la seule parole que nous devons écouter, c'est l'évangile de Jésus. Ce n'est pas la prédication du veau d'or. C'est ça, rester fidèle à Jésus. C'est écouter sa parole et rejeter toutes les autres. Celui qui est béni, celui qui est réellement béni par Dieu, c'est celui qui est fidèle. La bénédiction ne prend pas toujours la forme qu'on voudrait. Certains veulent des bénédictions en forme de richesse, en forme d'argent. Mais parfois, la bénédiction, elle prend une autre apparence. Quand Jean-Baptiste est venu, il est venu comment ? Quand Jean-Baptiste est venu, il était habillé comment ? Il mangeait quoi ? Il habitait où ? Jean-Baptiste. Donc après le veau d'or, Dieu voulait exterminer le peuple. Dieu avait pris une décision, il voulait exterminer le peuple. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que Moïse a intercédé. Moïse aimait le peuple. Il servait Dieu, mais il aimait le peuple. Et Moïse est intervenu. Celui qui prêchait le veau d'or, Aaron n'était plus là. Il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus rien faire pour le peuple. Moïse pouvait faire parce qu'il avait été fidèle, parce qu'il écoutait Dieu, parce qu'il aimait le peuple, mais il servait Dieu. Donc, comme Moïse est redescendu de la montagne, un jour Jésus va revenir. Comment nous trouvera-t-il ? Est-ce qu'il nous trouvera éveillés et fidèles ? Aaron, c'était celui à qui Moïse avait dit « Je te confie le peuple pendant mon absence. » Et Aaron, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a conduit le peuple dans l'erreur. Pourtant, Aaron, il était avec Moïse pour sortir le peuple d'Égypte. Il a aidé Moïse à sortir le peuple d'Égypte. Mais est-ce que ça lui donnait le droit de faire ce qu'il a fait ? Est-ce que ça lui donnait le droit d'accepter de servir le peuple comme il l'a fait en lui donnant un veau d'or ? Non, ça ne lui donnait surtout pas ce droit. Au contraire. Donc restons éveillés, parce qu'il n'y a qu'un seul évangile, et c'est l'évangile de Jésus. Et si des personnes veulent vous prêcher autre chose que l'évangile de Jésus, ne les écoutez pas. Rejetez ces enseignements. Il n'y a qu'une seule parole, c'est la parole de Dieu, elle est écrite. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement la parole de Dieu. Toutes les paroles qui veulent venir au-dessus de la parole de Dieu sont des paroles de perdition. Moïse est monté sur la montagne avec Josué. Il aurait dû monter avec Aaron. C'était Aaron qui était à ses côtés depuis qu'ils étaient partis d'Égypte. Mais il est monté avec Josué. Pourquoi ? Certainement Dieu lui a dit « monte avec Josué ». Aaron, il est resté en bas. Parce que certainement, il n'avait pas encore conçu le veau d'or de ses mains, mais il avait certainement déjà conçu un veau d'or dans son cœur. Et ça, Dieu le voit. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait si nous sommes fidèles ou infidèles. Alors Moïse, il est monté avec Josué, le jeune. Le jeune est passé devant l'ancien. Celui qui était réveillé est passé devant celui qui dormait. Et quand Moïse est redescendu de la montagne, il a trouvé Josué qui était là. Et Josué était éveillé et il était fidèle, il était resté là. La Bible dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et on l'a lu tout à l'heure, nous n'avons jamais été aussi proches de son retour. Pour notre part, nous prêcherons toujours l'évangile de Jésus. Jésus qui est mort à la croix, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour et qui va revenir. Jésus va revenir. Un chrétien qui ne croit pas au retour de Jésus, pardon, mais ce n'est pas un chrétien. Nous sommes là parce que nous croyons au retour de Jésus. Nous sommes là parce que nous avons cette espérance. Si on nous enlève cette espérance, à quoi bon ? À quoi bon ? Donc nous ne changerons pas. Nous prêcherons toujours l'évangile de Jésus. Et nous ne prêchons pas l'évangile de Jésus pour réconforter les gens ou pour faire plaisir aux gens. Nous prêchons l'évangile de Jésus pour annoncer la vérité. La vérité qui sauve les âmes. L'amour du monde, qu'on peut encore avoir parfois, mais l'amour du monde, c'est un signe que nous commençons à ne plus aimer Dieu, ou que nous commençons à ne plus aimer Dieu comme il faut, et que nous dormons, que nous nous endormons. Donc soyons réveillés, demeurons dans la communion fraternelle, demeurons fidèles à la parole de Dieu, et attendons son retour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cet amour que tu as répandu dans nos cœurs, cet amour de ta parole, cet amour de toi. Oh, ce matin encore, Seigneur, je te prie pour que cette parole touche des cœurs. Oh, que cette parole puisse produire un effet, une transformation dans le cœur de plusieurs, des petits ou des grands. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit et par ta parole, Seigneur, merci de transformer encore des vies ce matin pour ta seule gloire. Amen.